Wilkie Collins, La Pierre de Lune, 1868. Traduction de Madame la Comtesse Gédéon de Clermont-Tonnerre. Prologue. L'assaut de Seringapatam, 1799. Extrait de papier de famille. 1. J'adresse ces lignes écrites dans l'Inde à mes parents d'Angleterre. Mon but est d'exposer le motif qui m'a fait refuser ma main et mon amitié à mon cousin John Herncastle. La réserve que j'ai gardée jusqu'ici sur ce chapitre a été mal interprétée par plusieurs membres de ma famille, à la bonne opinion desquels je tiens. Je les prie de suspendre leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient lu ce récit, et je déclare sur l'honneur que ce que je vais écrire ne renferme que la plus stricte vérité. Le différend entre mon cousin et moi s'éleva lors d'un grand événement militaire auquel nous prîmes part tous deux. L'assaut livré à Seringapatam par le général Baird le 4 mai 1799. Pour aider à l'intelligence de l'histoire, il faut que je me reporte à l'époque qui précéda l'assaut et au bruit qui courait dans notre camp sur l'or et les joyaux entassés dans le palais de Seringapatam. 2. Une de ces légendes, et la plus bizarre d'entre elles, se rapportait à un diamant jaune, pierre précieuse et célèbre dans les annales de l'Inde. À en croire les plus anciennes traditions connues, ce diamant aurait été enchâssé dans le front de la divinité indienne aux quatre mains, qui est l'emblème de la lune. Le nom de pierre de lune, sous lequel il continue à être désigné jusqu'à ce jour dans l'Inde, lui vient de sa nuance singulière et aussi de la croyance superstitieuse en vertu de laquelle, placé sous l'influence de la déesse dont il était l'ornement, il était censé pâlir et reprendre son éclat suivant la croissance et la décroissance de la lune. J'ai entendu raconter qu'une semblable croyance existait en Grèce et à Rome. Toutefois, elle n'avait pas pour objet, comme dans l'Inde, un diamant consacré à un dieu, mais une pierre d'un ordre inférieur dont la transparence et les divisions intérieures, rappelant celles de la lune, étaient supposées en suivre les variations. De là serait venu à cette espèce d'onyx son nom de pierre de lune, sous lequel elle reste connue des amateurs modernes. Les aventures du diamant jaune commencent au XIe siècle de notre ère. À cette époque, le conquérant mahométan Mahmoud de Ghizni arrive dans l'Inde, s'empare de la cité sainte de Somnauth et dépouille de ses trésors le fameux temple qui avait été depuis des siècles le lieu de pèlerinage des hindous et la merveille de l'Orient. De toutes les divinités révérées dans le sanctuaire, le dieu de la lune échappa seul à la rapacité mahométane. Sauvé par trois brahmines, le dieu qui portait le diamant jaune sur son front fut enlevé pendant la nuit et transporté dans la seconde des cités sacrées de l'Inde, la ville de Bénarès. Là, le dieu placé dans une salle incrustée de pierres précieuses, abrité sous un toit supporté par des pilastres d'or, reçut les adorations de ses fidèles. Dans ce sanctuaire, la nuit même où il fut achevé, Vishnu apparut en songe aux trois brahmines. Le dieu dirigea son souffle sur le diamant de l'idole sacrée, et les brahmines prosternés se voilèrent la face. Vishnu ordonna que désormais le diamant de lune serait gardé jour et nuit, alternativement par trois prêtres, jusqu'à la fin des siècles. Et les brahmines l'entendirent, et ils s'inclinèrent devant sa volonté suprême. Le dieu prédit un désastre aux mortels assez présomptueux pour porter ses mains sur le joyau sacré, ainsi qu'à tous ceux de sa maison et de son nom qui hériteraient du fruit de ce sacrilège. Et les brahmines font inscrire l'arrêt divin en lettres d'or sur la porte de l'enceinte consacrée. Les siècles suivirent les siècles, mais de génération en génération, les successeurs des trois brahmines veillèrent nuit et jour sur l'inestimable diamant de la lune. Nous arrivons ainsi au XVIIIe siècle, dont les premières années virent le règne d'Aurangzeb, empereur des Mongols. Il donna le signal des nouvelles rapines et de la destruction des temples dédiés au grand Brahma. Le sanctuaire du dieu aux mains multiples fut souillé par le massacre des animaux sacrés. les images des divinités furent brisées, et enfin le diamant tomba entre les mains d'un officier supérieur de l'armée du Mogol. Impuissants à ressaisir leur trésor à main armée, les trois prêtres gardiens se déguisèrent pour le suivre et le surveiller à distance. Les générations se succédèrent, le guerrier sacrilège périt misérablement. Le diamant, portant toujours sa malédiction avec lui, passa d'un infidèle à un autre. Mais les prêtres ne se départirent jamais de leur mission, guettant patiemment le jour où la volonté de Vishnu les ferait rentrer en possession de leurs joyaux sacrés. Le XVIIIe siècle s'achevait lorsque les pérégrinations du diamant le mirent aux mains de Tipo, sultan de Seringapatam, qui le fit enchâsser au manche d'un poignard et placer dans son arsenal comme une de ses armes les plus précieuses. En ce lieu même, demeure du sultan, les trois brahmines veillèrent sur la pierre de la lune. On racontait que trois officiers de la maison de Tipo, étrangers et inconnus, avaient gagné sa confiance en se conformant aux apparences du rite mahométan, et que ces trois hommes n'étaient autres que les prêtres déguisés. Trois. Ainsi, chacun se contait dans le camp l'histoire fantastique du diamant. Elle ne fit d'impression sérieuse que sur mon cousin, qui était disposé à y croire par son amour du merveilleux. La nuit même de l'assaut donné à Seringapatam, il s'emporta ridiculement contre moi et contre d'autres camarades pour avoir traité le tout de fable. Une dispute fâcheuse s'ensuivit, et l'irascible caractère d'Uncastle lui fit perdre son bon sens. Il débita 1000 fanfaronnades et dit que si l'armée anglaise prenait la ville, nous verrions tous le diamant à son doigt. Un éclat de rire général salua cette déclaration, et l'affaire en resta là, du moins à ce que nous crûmes tous alors. Arrivons au jour de l'assaut. Dès le commencement de l'action, mon cousin et moi fûmes séparés. Je ne le vis ni au passage de la rivière, ni lorsque le drapeau anglais fut planté sur la brèche, ni enfin au moment où, passant le fossé, nous entrâmes dans la ville, disputant chaque pouce de terrain à nos ennemis. À la tombée de la nuit seulement, Herncastle et moi, nous nous rencontrâmes après que, la place étant conquise par nos troupes, le général Baird eut trouvé lui-même le corps de Tipo sous un amas de morts et de mourants. Nous faisions partie tous deux d'un détachement chargé par le général d'empêcher le pillage et les scènes de désordre inhérentes à la prise d'une ville. Les traînards du camp se livraient à de déplorables excès. Enfin, les soldats découvrirent malheureusement, par une porte non gardée, le chemin de la salle du trésor, et une fois qu'ils y eurent pénétré, s'y gorgèrent de joyaux et d'or. Herncastle et moi, nous nous trouvâmes réunis dans la cour extérieure du trésor, cherchant à faire respecter la discipline par nos soldats. Je m'aperçus sur l'heure que la violence de mon cousin était encore surexcitée par les scènes de carnage que nous venions de traverser. À mon avis, il était tout à fait incapable de remplir la mission qui nous avait été confiée. Il y avait passablement de désordre et de confusion dans la salle du trésor, toutefois je ne remarquais aucun acte de violence. On eût pu dire que nos hommes pillaient avec la gaieté d'enfants en vacances. Ils échangeaient des jeux de mots, des plaisanteries, et l'histoire du fameux diamant revenait en scène sous forme de lazzi. Qui a pu trouver la pierre de lune? Ce refrain était incessant et ne s'arrêtait parfois que pour redoubler sur d'autres points non encore explorés. Pendant que j'essayais vainement de remettre un peu d'ordre parmi cette troupe surexcitée, j'entendis des cris effroyables s'élever de l'autre côté de la cour. J'y courus, redoutant que les soldats n'eussent trouvé sur ce point un nouvel élément de destruction. Je parvins à une porte ouverte et vis les corps inanimés de deux Indiens que, à leur costume, je reconnus pour être des officiers du palais. D'autres cris partant de l'intérieur, je me précipitai dans une pièce qui paraissait être un arsenal. Là, un autre Indien, mortellement blessé, s'affaissait aux pieds d'un homme dont je n'apercevais que le dos. Celui-ci se retourna en entendant mes pas, et je reconnus John Herncastle, une torche dans une main et dans l'autre un poignard ruisselant de sang. Une pierre, disposé en pommeau à l'extrémité de la poignée, étincelait de 1000 feux à la lueur de la torche. L'Indien mourant se soutint sur les genoux, désigna le poignard tenu par mon cousin, et dit en langue hindoue, « Le diamant de la lune tirera vengeance de vous et des vôtres. » En proférant cette dernière menace, l'Indien retomba mort. Les hommes qui m'avaient suivi, en traversant la cour, envahirent l'arsenal. Avant que j'eusse pu prendre un parti, Horncastle s'élança vers eux comme un fou furieux. « Dégagez la porte, me cria-t-il, et mettez-y une garde. » Les soldats reculèrent devant sa torche et son poignard. Abasourdi de cette singulière scène, je plaçai pourtant à la porte 2 sentinelles éprouvées et prises parmi les soldats de mon propre détachement. Pendant tout le reste de cette terrible nuit, je ne revis plus mon baron. Dès l'aube, comme le pillage continuait, le général Béade fit annoncer au son du tambour que tout voleur pris sur le fait serait pendu, quel que fût son grade. Afin de mieux en faire ressortir l'importance, le prévôt de l'armée appuyait de sa présence cet ordre du jour. Parmi la foule qui écoutait la proclamation, Horncastle et moi, nous nous trouvâmes face à face. Il me tendit la main comme de coutume en me disant « Bonjour ». J'attendis avant de la prendre et lui dis « Donnez-moi d'abord quelques détails sur ce qui a causé la mort de l'Indien dans l'arsenal et sur ce que signifiaient ces dernières paroles lorsqu'il désignait du geste le poignard que vous teniez à la main. « Je pense, répondit Horncastle, que la mort de l'Indien est due à une blessure mortelle. Quant à ces dernières paroles, je ne sais rien de plus que vous. » Je le regardai fixement. Son exaltation de la veille avait disparu. Je voulus lui laisser encore une chance de s'ouvrir à moi. « Est-ce bien tout ce que vous avez à me dire ?» lui demandai-je. « Oui, c'est tout, » fut sa réponse. Je lui tournai le dos, et jamais depuis nous ne nous sommes parlé. 4. Il est bien entendu que ce que j'écris sur mon cousin n'est destiné qu'à la famille, à moins que les circonstances n'en rendent la publication nécessaire. Horncastle n'a rien laissé échapper qui m'ait autorisé à instruire notre commandant des fortes préventions que j'avais conçues contre lui. On l'a plaisanté plus d'une fois sur le diamant, en lui rappelant ses fanfaronnades à ce sujet la veille de l'assaut. Mais la situation qu'il a vis-à-vis de moi, depuis la scène de l'arsenal, suffit à lui faire garder le silence. On assure qu'il demande à changer de régiment, dans le but avoué par lui de s'éloigner de moi. Que ce bruit soit fondé ou non, je ne puis me résoudre à devenir son accusateur public, et chacun, je crois, appréciera mes motifs. Je n'ai que des présomptions contre lui. Je ne pourrais même affirmer qu'il a tué les 2 premiers Indiens étendus à la porte, ni même le 3e dans l'arsenal, car je n'ai pas vu commettre le meurtre. Il est trop vrai que j'entendis les paroles du mourant, mais si mon cousin les attribuait au délire, comment pourrais-je contredire son assertion? Je laisse donc nos parents communs se former une opinion d'après mon récit. Ils décideront si l'aversion que j'éprouve maintenant pour cet homme est bien ou mal fondée. Bien que je n'attache aucune espèce d'importance à la fantastique légende du diamant, je dois avouer, avant de finir, que j'éprouve une frayeur superstitieuse à son sujet. C'est chez moi une conviction ou une illusion, peu importe, que le crime entraîne avec lui son châtiment. Je me sens convaincu de la culpabilité d'Horncastle, et je reste persuadé qu'il regrettera pendant sa vie, s'il conserve le diamant, la part qu'il a prise dans cette mystérieuse transmission, et que d'autres subiront la fatalité attachée à la pierre de lune s'ils l'acceptent de sa main. Nous verrons.